Et voici donc, comme promis, la dernière partie de la grande table, Raphaël Dubois.
Et oui, elle arrive. Merci Antoine, merci, restez avec nous. Nous allons parler donc de l'enseignement des langues. C'est la nouvelle polémique qui a surgi à propos de la réforme du collège présentée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem et adoptée au Conseil supérieur de l'éducation le 10 avril. Elle sera donc appliquée à la rentrée 2016. Alors voilà ce qu'on peut dire en essayant d'être le plus neutre possible, ce qui est plutôt difficile. Cette réforme institue l'apprentissage d'une première langue dès le CP. Alors que c'est en CE1 aujourd'hui, et d'une deuxième langue dès la cinquième, donc contre la quatrième actuellement, ce qui supprime mécaniquement, nous dit-on, des classes comme les classes bilangues. Le remplacement des options latin et grec au profit d'une nouvelle matière interdisciplinaire qui est appelée langue et culture de l'Antiquité et qui devrait donc toucher plus d'élèves, tous les élèves, 100% des élèves, selon Najat Vallaud-Belkacem, qui l'assurait encore ce matin, on l'a entendu dans votre journal, Antoine Mercier, qui l'assurait encore ce matin sur RTL, voilà, alors qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une fraction des élèves qui font des langues mortes, comme on les appelle. Et comme à chaque réforme, les réactions ne se sont pas fait attendre. Elles sont même très violentes. On regrette la disparition des dites langues mortes. On s'inquiète pour l'enseignement de l'allemand, nous dit-on, avec cette question dont l'enseignement des langues n'est qu'un révélateur, finalement, de l'ensemble des questions qu'on se pose sur l'éducation nationale. Est-on en train de niveler par le bas l'éducation en France au nom de l'égalitarisme entre les langues, l'élitisme donc. Bonjour Heinz Wiesmann.
Bonjour.
Bon, on vous a invité aujourd'hui puisque vous êtes philosophe et philologue, fin connaisseur des différents systèmes éducatifs en Europe. On signalera L'avenir des langues, repenser les humanités. C'est un livre qui était tiré d'un rapport que vous aviez publié avec Pierre Judet de Lacombe, un rapport qui vous a été commandé sur l'enseignement des langues mortes, justement, le latin et le grec, et aussi Penser entre les langues. J'ai détourner votre titre pour le chapeau de cette émission. C'était chez Albin Michel en 2012 et vous y parliez de votre pratique personnelle, de votre situation entre le français et l'allemand, et ça vous permettait de réfléchir un petit peu à ce lien qu'on a avec la langue, ce lien avec la culture en règle générale. Et on a demandé à Christian Vatrelot d'être là avec nous. Philippe, pardon, excusez-moi, j'ai mal écrit. Philippe Vatrelot, là avec nous aujourd'hui, excusez-moi, des cahiers pédagogiques. Vous êtes également professeur, formateur à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Paris. Vous tenez aussi chronique sur l'éducation, je dis tout pour me faire pardonner, chronique sur l'éducation sur votre blog. Voilà. Et, donc une première question, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit dans le journal, Heinz Wiesmann, ce que vous avez dit dans le journal sur ce serpent de mer idéologique, comme vous le qualifiez, l'égalité de l'accès à la culture par l'alignement sur les possibilités des plus démunis. Ça fait réagir le porte-parole des Verts, d'ailleurs, qui était présent dans le studio. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu, justement, parce que comme vous avez eu très peu de temps tout à l'heure, peut-être que votre pensée a été un peu raccourcie sur cette question-là.
Oui, j'ai caricaturé en évoquant les projets insensés des théologiens de la libération. Tout cela est oublié. Simplement, le serpent de mer réapparaît régulièrement. Et la question fondamentale qu'à mon sens, il faut soulever, est la question de la finalité de l'enseignement qui nous amène collectivement à la culture. Et cette finalité, c'est ça le véritable problème partout en Europe et peut-être dans le monde, en Europe à coup sûr, est caractérisée par un glissement lent et inexorable de ce qu'on enseigne vers les connaissances factuelles. C'est-à-dire vers des choses qui sont finalement de nature informationnelle, si on veut. Et on peut parfaitement les stocker en dehors des cerveaux.
Ça s'oppose à quoi, ces connaissances factuelles?
C'est ce que j'allais dire maintenant. Ces connaissances factuelles qu'on peut stocker sur un cerveau qui est un disque externe. Nos enfants savent ça quand ils ouvrent Wikipédia pour faire leurs devoirs. Eh bien, ça dispense de faire fonctionner son propre cerveau. On appelait ça autrefois le raisonnement. On peut appeler ça le modus operandi de la culture tout entière. C'est-à-dire, ce sont les langues au sens large, les grammaires, en fait, qu'il s'agit d'enseigner. Sinon, on ne peut pas faire un usage raisonné des connaissances qu'on a accumulées. Les mathématiques, ce sont des langues dotées de plusieurs grammaires. D'ailleurs, c'est l'ancien médaille Fields, Laurent Laforgue, qui parle de façon tout à fait claire du rapport qu'entretient la grammaire mathématique qui lui a permis ses exploits dans son domaine avec d'autres grammaires. Et alors la grammaire du latin, je parlerai de l'allemand peut-être après, mais la grammaire du latin a l'immense avantage, puisque c'est une langue qu'on n'est pas obligé de parler et qui ne concentre pas l'attention sur le tac au tac de l'échange immédiat, ce qui se fait dans la cour de récréation ou dans les petites communautés. Et bien, le latin fait décoller, d'une certaine manière, la conscience des élèves de cette espèce d'emprise permanente d'un présent qui se perpétue. Et ça n'a rien à voir avec le contenu civilisationnel des textes qui sont transmis en latin ou en grec. Et pour moi, la grande erreur, c'est de soutenir qu'on peut remplacer l'enseignement de ces langues par un enseignement des cultures et des civilisations. Là, on racontera les mythes grecs, par exemple, comme si c'était des petits discours moralisateurs. Je ne veux pas faire des allusions trop explicites. Alors que ces mythes ne peuvent être analysés que si on dispose de l'instrument qui a permis leur élaboration, et c'est la langue. Et la langue en tant que grammaire. Et je dis une dernière chose. La grammaire a un sens très large. Il y a des grammaires vestimentaires, il y a des grammaires culinaires, il y a des grammaires dans le comportement des gens lorsqu'ils sont polis les uns avec les autres, selon des codes différents. Si on n'initie pas les jeunes générations aux grammaires, c'est-à-dire aux langues, on perd tout le bénéfice du savoir qu'on leur fait accumuler.
Alors, Heinz Wissmann, vous me pardonnerez, mais là, vous êtes allé très, très, très vite, tout de suite à l'essentiel, je vous reconnais bien là. Mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure, il faudrait peut-être passer encore un petit peu de temps sur ces programmes véritablement. Vous avez dit tout à l'heure que la technicité des discussions font écran à l'essentiel. On va faire encore un petit peu écran pendant quelques secondes. Il n'est pas forcément question de remplacement, et c'est ça qui est difficile dans ce débat. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, justement. Il n'est pas forcément question de supprimer l'enseignement des langues au profit d'un enseignement des cultures et de la civilisation. C'est juste un réaménagement. Et la ministre nous dit que ça va donner plus de temps, ça va faire accéder plus d'élèves à ces enseignements. Alors, c'est difficile dans ce débat de savoir exactement ce qui est vrai. Je vous donnerai la parole juste après.
Ça ne fait que trois ans que ça s'appelle déjà langue et culture de l'Antiquité. Donc c'est pas une découverte récente. Quand on prétend connaître les programmes, dans ce cas-là, il faut justement être précis. Langue et culture de l'Antiquité, ça fait trois ans que ça s'appelle comme ça.
D'accord.
Mais je reviendrai.
On en reparlera tout à l'heure. Heinz Wissmann, donc sur cette question de comment finalement la discussion sur les programmes, voilà,
où se cache les diables dans ces détails. Ouais.
Non, le diable, c'est le glissement auquel j'ai fait allusion vers des contenus où la connaissance est factuelle. Cela dépossède les cerveaux des plus jeunes de ce qui est le plus précieux dans toute
l'éducation.
Mais les faits
sont essentiels dans l'éducation.
Mais sans faits, on ne peut rien faire. Mais les faits, sans la grammaire qui permet de les hiérarchiser, qui permet de les utiliser dans des élaborations intellectuelles, sans les grammaires, les faits restent mort.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis de ce que vous dites là, en prenant un cas concret, comment le fait, effectivement, va empêcher ou va prendre la place de la possibilité de le penser ?
Les faits, ce sont des connaissances qui se laissent simplement traiter par l'information et par les outils informatiques. Les faits, c'est ce qu'on enregistre traditionnellement dans son cerveau, et maintenant on peut l'enregistrer en dehors du cerveau. Ça, c'est le fait civilisationnel majeur, à mes yeux. Et à partir de là, le traitement de ces faits au service d'un raisonnement devient tout à fait aléatoire. Car d'où viennent les capacités de raisonner ? Ces capacités viennent toujours d'une langue. Et là, il n'y a pas une langue qui l'emporte sur les autres. Ce sont les langues qui sont à distinguer en tant que grammaire de leur contenu. Et ce n'est pas en alliant les contenus à l'enseignement des langues qu'on empêche ce glissement vers ce que j'appelle le factuel au détriment du modus operandi, pourrait-on dire. Or, l'intelligence que l'éducation vise à développer est une intelligence grammaticale.
Mais que la pensée soit dans la grammaire, c'est ça qui est difficile à comprendre, dans la langue.
Mais c'est ça qu'il s'agit de comprendre, parce que lorsque nous mettons en œuvre un raisonnement, nous ne le faisons pas en alignant des faits. On les hiérarchise, on les met en perspective, on essaye de leur attribuer des valeurs. Or, l'opération qui consiste à évaluer les faits ou à les traiter dans une logique finalisée pour qu'un argument porte, eh bien, ça suppose qu'on dispose d'une grammaire. Or, la grammaire du français, comme la grammaire de l'allemand, sont également menacées par la tendance générale que j'observe. Et ça n'a rien de polémique, je veux dire, c'est descriptif. Nous vivons dans un monde, et j'ai entendu dire ça par des présidents d'universités qui s'étaient réunis, j'étais présent à Bruxelles, sous la houlette du commissaire à l'éducation et à la culture, et bien ils ont dit que, on appelle ça la société de la connaissance, la knowledgeable society, et bien elle consiste essentiellement à donner aux élèves les outils techniques qui leur permettent d'accéder au contenu qu'il faut connaître. Et bien, c'est là que le diable se cache.
Alors Philippe Vertelon, on retrouve là un débat auquel vous aviez déjà participé à ce même micro entre connaissances et compétences, je pense qu'on peut le dire peut-être comme ça, qui anime évidemment toute la réflexion pédagogique et toute la réflexion sur les programmes en France. Comment est-ce que vous, peut-être avec votre connaissance fine des programmes, vous voyez le débat tel qu'il se cristallise aujourd'hui?
Moi je crois que le débat est bien mal parti parce que tout d'abord, avec tout le respect que je dois à Heinz Witzmann, je trouve qu'on est dans un bon nombre de présupposés qui ne semblent pas, selon moi et selon ma lecture, correspondre à la réalité des programmes tels qu'ils sont proposés et à la réforme du collège. Parce qu'en plus, il y a cette superposition entre deux aspects, hein, la réforme du collège proprement dite et les programmes. Voilà, qui sont deux choses différentes. Et ces programmes, d'ailleurs, qui doivent être, non pas réécrits, mais en tout cas amendés à la suite des consultations. Mais revenons au point que vous évoquiez. Moi, je pense que cette opposition connaissance-compétence fait partie de ces fausses oppositions qui, d'une certaine manière, pourrissent le débat. J'ai tendance à dire, pour ma part, qu'il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de compétence sans savoir. Les compétences ne sont rien d'autre que des savoirs en action, ni plus ni moins. Quant à la distinction que vous opérez, M. Witzmann, entre l'information et les savoirs, eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, parce que je pense qu'en effet, le rôle de l'enseignant, c'est d'être un passeur culturel, c'est-à-dire celui qui va transformer cette bouillie qui est celle de l'information qu'on trouve partout sur les réseaux, etc., en un véritable savoir, en quelque chose qui a besoin justement de la médiation de l'enseignant. Et il me semble que ces programmes tels que on les voit là le permettent tout à fait. Il ne me semble pas qu'il y ait de refus de cette dimension-là dans les programmes actuels.
Le problème qui m'apparaît, c'est que le rôle qui a été traditionnellement et pendant des siècles, alors il faut aussi un peu voir comment on a éduqué depuis très très longtemps, le rôle qui avait été dévolu aux langues, mais au sens large encore une fois, est en train de diminuer sous la pression de l'accumulation exponentielle des faits qu'il s'agit d'enregistrer. Il suffit d'ouvrir les manuels scolaires. C'est absolument stupéfiant de voir à quel point, par exemple, les grandes œuvres littéraires, je parle dans la France, les grands romans du 19e siècle, sont présentés à partir de ce qu'ils ont de factuel. C'est-à-dire qui sont les personnages, quelles sont les situations clés. Et lorsqu'on passe au contrôle, ce sont ces faits qu'il faut recracher. Alors que la difficulté que j'ai à voir ma propre fille s'engager dans la lecture d'un roman, c'est qu'elle doit être, et là il y a une inégalité sociale énorme, puisque les parents peuvent suppléer au manque de l'éducation scolaire, et bien, je vois que je dois lui expliquer qu'un peu de patience, une attention apportée davantage à la manière dont les choses sont dites que à ce qui est dit, et bien tout ce petit décollage, et bien finit par la convaincre, non parce que j'ai de l'autorité, mais parce qu'elle éprouve un plaisir spécifique. Et c'est ce plaisir spécifique que l'utilisation des grammaires dont nous disposons, et c'est, encore une fois, il y a toutes sortes de grammaires, ce plaisir spécifique doit être au cœur d'un projet d'éducation. Et là, je ne fais pas un procès d'intention à la ministre, par exemple. Je pense qu'il y a un dérapage généralisé, ce qui fait que les jeunes Allemands qui ont appris la langue du partenaire, lorsque, à l'initiative de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, ils se réunissent par milliers depuis le traité de l'Élysée, chaque année, eh bien, on observe que ces jeunes Français qui ont appris l'allemand, les jeunes Allemands qui ont appris le français, commencent à converser en petit anglais. Et la véritable raison, c'est qu'ils n'ont pas appris le vrai français. Ils n'ont pas appris le vrai allemand, puisque l'alignement sur ce qui est, je dirais, une koiné, c'est-à-dire une langue mineure partagée par tous, finalement commerciale, eh bien, cet alignement-là est absolument dévastateur. Et je pense qu'il faut lutter de toutes nos forces contre cette espèce de nivellement qui n'a rien à voir avec une attitude élitiste. Le privilège est dû à tous.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
13h12 sur France Culture, vous écoutez donc La Grande Table et on reçoit Hans Wissmann, philosophe et philologue. Avec lui, on parle notamment de l'enseignement de la langue. Vous étiez sur ce sujet, Hans Wissmann, juste à l'instant, et vous avez parlé d'élitisme et d'égalité finalement. Et c'est ça aussi qui s'articule derrière ce débat. On nous dit, d'un côté, enseigner l'allemand, ceux qui apprennent l'allemand font partie d'une élite en quelque sorte. Seuls les meilleurs élèves y accèdent. Alors c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être parce qu'on fait de l'allemand qu'on devient le meilleur élève, je sais pas. Mais bref, on nous dit c'est élitiste. Et de l'autre, pour promouvoir l'égalité dont on souhaite tous qu'elle augmente, évidemment, entre les élèves, il faut donc changer la façon d'enseigner les langues. Qu'est-ce qui vous gêne finalement dans cette balance entre égalité et élitisme ?
Non, mais c'est un faux débat parce que ce n'est pas du tout élitiste que d'exiger que les jeunes générations soient initiées à ce que j'appelle le modus operandi, la manière d'agir par le raisonnement. Ce qui est tout à fait autre chose que d'assimiler, dans des cours de technologie, par exemple, qui prennent des heures aux langues. Il y a dans les programmes actuellement énormément de disciplines qui sont maintenant enracinées, qu'on ne peut plus écarter, et qui sont totalement tournées vers cette espèce d'accumulation de connaissances factuelles. Mon fils a dû apprendre, dans son cours de technologie, la nomenclature des pièces qui composent une perceuse. Eh bien, tous ces mots-là, il aurait pu les apprendre dans une langue étrangère et si possible dans sa propre langue, car il y a aussi un déficit de maîtrise, vocabulaire et de la grammaire de sa propre langue. C'est là que je vois les choses dévisser. Et l'égalité que l'on prône est en réalité un cadeau empoisonné. Voilà, c'est ça le sens de ma discussion.
Alors, la perceuse de votre fils, je reviens à votre fille.
Oui.
Bon, je ne sais pas, c'est peut-être Madame Bovary qu'elle a entre les mains. Mais comment vous allez enseigner le plaisir spécifique de la lecture du roman de Flaubert? Est-ce que ça s'enseigne?
Ça s'enseigne par le modèle. Et c'est là que la grande inégalité qui va s'instaurer avec l'égalité visée par l'enseignement, c'est que les modèles vont être de moins en moins les professeurs, ce sont les parents, et on aura un nouveau féodalisme, parce que ce que l'école républicaine devait faire depuis le XIXe siècle, c'était de combler le fossé qui séparait les gens instruits, qui se transmettaient le patrimoine de la culture de ceux qui ne disposaient pas de cet avantage. Et c'était une mission noble. Mais cette mission ne pouvait pas se réduire à la transmission de connaissances. Les connaissances sont indispensables et personne ne va le contester. Mais il y a actuellement une sorte de prolifération presque cancéreuse de connaissances à assimiler. Et les jeunes générations sont tout à fait consciente que ces connaissances-là, on peut les externaliser. Et du coup, ils n'ont ni les connaissances,
ça ne sert à rien, effectivement,
ni la capacité de raisonner.
Donc ce n'est pas une question de connaissances ou pas, ou de programme ou pas, c'est une question de modèle. Vous avez dit de modèle, ça veut dire qu'on croit quelque chose qui serait... qui pourrait nous apporter, en tant qu'élève, un savoir.
Si vous permettez, je vais juste donner un exemple, et ensuite je me tais, mais vécu. Parce que je disais que le véritable, et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, le véritable enseignant est celui que les élèves ont envie d'imiter. C'est-à-dire de faire comme il sait faire.
Il n'est pas d'accord là.
Non, je donnerai la parole dans 5 secondes.
Alors, moi, je soutiens que l'éducation, elle ne peut fonctionner que si les enfants ont envie de faire ce que ceux qui savent le faire font, alors qu'eux ne savent pas encore le faire. Et bien, mon exemple est le suivant. Mon fils, qui était en cinquième, avait commencé, parce que ça traînait chez moi, la lecture des frères Karamazov. Et il est venu me voir, après avoir lu 50 pages, en me disant « Papa, je ne comprends pas, il ne s'y passe rien. » Alors, il était conditionné pour rechercher, dans ce qu'il lisait, les faits. Et je lui dis « Mon petit, moi, j'ai lu avec plaisir, au-delà des premières 50 pages, si tu me fais confiance, lis jusqu'à la page 100. Et si jamais, à la page 100, aucun plaisir n'est au rendez-vous, eh bien... tu laisses tomber et je te fais cadeau de quelque chose de plus agréable. » Il a lu jusqu'à la page 100. Il est venu me voir comme un garçon honnête. Il m'a dit « Papa, maintenant, c'est incroyable. Je comprends pourquoi, au début, il ne faisait que parler. » Or, parler, c'est la langue. Et tout l'enjeu d'un grand roman, c'est la manière dont la langue maîtrise, emploie, combine les éléments qui sont des références au réel. Ce ne sont pas ces références au réel, c'est ces éléments factuels qui font qu'un roman est un objet de grand plaisir si on y entre. C'est la manière de faire, c'est la manière dont procède l'auteur. Et pour être initié à cela, eh bien, il faut mettre le paquet sur la langue maternelle. Dans le livre de 2004, avec Delacombe, on a beaucoup insisté sur la nécessité de soigner d'abord la langue maternelle pour avoir accès aux autres langues au bon niveau. Sinon, on reste au niveau de ce que j'appelle le petit anglais dans toutes les langues.
Philippe Bertrelot.
Ah, beaucoup de choses à dire. D'abord, peut-être sous forme d'une plaisanterie, tout à l'heure, Heinz Wissmann évoquait la perceuse, les parties de la perceuse, et il disait qu'on aurait pu l'apprendre dans une langue étrangère. J'ai envie de dire que ça ressemble fortement aux enseignements, aux pratiques interdisciplinaires qui sont prônées par la réforme du collège.
C'est-à-dire qu'on apprend les parties de la perceuse en allemand.
Combiner plusieurs disciplines.
Pardon, ce n'est pas les parties de la perceuse. Apprendre des mots d'une autre langue à la place.
Oui, oui,
voilà.
Bien sûr,
on est bien d'accord. Mais je pense que pour donner du sens, et j'aimerais aussi introduire ce terme de sens à côté de celui de plaisir, sans exclure le plaisir, il est important justement, vous l'évoquiez dans plusieurs articles, de ne pas cloisonner les disciplines. On est bien d'accord là-dessus. Moi, en vous entendant, je me retrouve finalement presque dans les mêmes situations que à côté de mes collègues professeurs de différentes disciplines, où on assiste d'une certaine manière à une sorte de messianisme disciplinaire. Hors de ma discipline, point de salut. Tous les enseignants sont persuadés, et moi aussi bien sûr, en tant que professeur de sciences économiques et sociales, que la discipline qu'on enseigne, elle est indispensable et qu'on devrait lui accorder le maximum de temps et d'heures possible, parce que c'est bien sûr ça qui vous a fait évoluer, grandir, et que vous enseignez cela parce que vous avez un certain amour pour la discipline. Sauf que un programme, sauf que un ensemble de dispositifs qui sont ceux d'une réforme du collège, c'est justement d'arriver à combiner ces différentes disciplines dans un ensemble qui se veut quand même relativement
harmonieux et qui évite aussi, vous aviez évoqué ça à un moment également, la prolifération des connaissances, se centrer sur l'essentiel, donner cette marge de manœuvre aux enseignants qui leur permettent justement de, parce qu'ils connaissent bien leur discipline, d'aller vers l'essence même de ce qui doit être enseigné plutôt qu'une accumulation de concepts, de connaissances. Alors là, moi je dis que c'est ce que l'on peut voir dans la réforme du collège. Un dernier mot quand même.
Vous n'étiez pas d'accord avec les notions de modèle. Je crois que c'était intéressant. Pourquoi est-ce que le maître ou le professeur n'est pas un modèle pour vous ?
Moi, je dis souvent, parce que c'est une formule simple, que moi, je pense que je suis plus efficace dans le côte à côte que dans le face à face. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être dans une disposition qui permette à l'élève qui rencontre des difficultés, justement, de lui permettre de les résoudre. Et c'était sur ce point-là, justement, que je voulais peut-être terminer mon intervention. Parce que ce que j'entends dans les remarques de Heinz Wissmann et de bien d'autres intellectuels qui se sont longuement exprimés sur la réforme du collège, c'est quand même des interventions qui sont un petit peu, alors il va réagir ensuite, sur le mode de la plainte, le mode du regret. Et moi, je m'inquiète un petit peu de ces intellectuels qui ont finalement, d'une certaine manière, du mal à critiquer un système qui les a fait réussir. Hein, puisque un intellectuel, c'est forcément un bon élève qui a réussi. Et il y a une vraie difficulté chez les intellectuels, me semble-t-il, à penser tout simplement la difficulté scolaire.
Heinz Wissmann.
Deux choses. J'ai refusé d'apprendre l'anglais après avoir appris le latin en sixième, le grec commencé en cinquième. Enfin, c'est l'époque révolue de ce qu'en Allemagne, on appelait le lycée des humanités. Humaniste de choses gymnasium. Et quand j'ai dû apprendre l'anglais, j'étais confronté à un manuel où deux garnements londoniens échangeaient des propos dépourvus de tout intérêt. Et du coup, j'ai refusé d'apprendre l'anglais. Ça ne m'a absolument pas empêché d'apprendre l'anglais. Mais ce refus qu'on peut qualifier d'élitiste, en fait, est la source même de l'intérêt que j'ai porté à des choses moins banales. Et je crois que inciter un jeune à distinguer ce qui est banalement assimilable de ce qui est difficilement maîtrisable, c'est l'essence même de la mission qui est la nôtre. Et ça n'a rien à voir avec un élitisme.
Et ça, on ne le fait pas dans le côte à côte, alors on le fait dans le face à face.
Oui, ça, ouais. Enfin, ça ne peut pas être côte à côte. Il faut absolument avoir quelque chose vers quoi on aspire. Platon appelait ça l'éros. Or, le côté érotique dans l'enseignement me paraît tout à fait essentiel. Érotique, pas au sens plat et banal du terme, mais un enseignant qui n'est en rien l'incarnation de quelque chose de désirable pour ses élèves ne pourra pas enseigner, quelles que soient les techniques.
C'est l'enseignant ou le savoir qui doit être...
Non, c'est l'enseignant érotique. Doit absolument incarner. Parce que le savoir, c'est de nouveau des contenus. Qu'il ne faut absolument pas dénigrer, mais ça ne suffit pas.
Si je crée une situation qui va donner envie à l'élève d'aller plus loin, c'est bien là que j'introduis un petit peu plus d'éros, alors qu'il y a effectivement beaucoup de thanatos dans l'école. C'est pas forcément l'enseignant en lui-même. Il faut se méfier aussi du modèle de l'emprise, hein, parfaitement résumé par le cercle des poètes disparus et autres figures comme celle-là. C'est peut-être justement dans le fait de rendre ce savoir intéressant, source de plaisir, source de sens, source de signification, plus que l'enseignant lui-même.
Alors pour ceux qui n'ont pas fait du grec, un héros, c'est plutôt le désir, et Thanatos, plutôt la mort, voilà. On va le dire comme ça, Heinz Wissmann. C'est vrai que dans cette discussion qui s'anime un petit peu entre vous et Philippe Vatrelot, on voit s'animer les deux positions, mais qui pose la question véritablement de les programmes finalement et la façon de la réforme du collège, c'est aussi du concret. Et c'est vrai que dans ce que vous dites, Heinz Wissmann, concrètement, on adhère forcément à l'idée qu'il faut passionner les élèves, qu'il faut leur transmettre l'amour de la littérature, des mathématiques, des humanités en règle générale. Et on a du mal à faire le pas du côté des programmes, finalement.
Alors, quel serait vos programmes,
voilà, je pose une question à Antoine Mercier. Quels seraient les programmes
encore une fois. Les programmes tels qu'ils sont actuellement pratiqués dans tous nos pays, et ce n'est pas qu'en France, sont strictement déséquilibrés en faveur de ce que j'appelle les connaissances factuelles.
Donc il
c'est
faut...
ça le problème. Or, les langues, et encore une fois, les langues représentent essentiellement des grammaires, c'est-à-dire des outils qui permettent de tirer des connaissances, des effets de sens. Je reprends le terme. Eh bien, il faudrait recentrer, c'est absolument utopique dans la situation dans laquelle nous sommes, mais il faudrait recentrer l'enseignement sur les grammaires, quelles qu'elles soient. Et la grammaire
latine...
Mais à ce
moment-là, il faudra bien apprendre, par exemple, les déclinaisons latines, il faudra bien apprendre des éléments concrets, non enfin,
naturellement, oui. Mais le latin que vous ne parlez pas a cet immense avantage de vous confronter directement avec la grammaire. Si, pourquoi on a lu depuis des siècles, quand on commençait le latin, la guerre des Gaules ? Ce n'est pas le contenu du récit de César qui intéresse. Aujourd'hui, mon pauvre fils qui fait du latin, eh bien, on lui a proposé des fables de l'Antiquité tardive sur maman poule qui protège ses petits contre les prédateurs parce que la prof pensait que c'était plus proche d'eux. Mais c'est complètement idiot. La guerre des Gaules, on s'en contrefou de savoir que César a tel jour construit tel... C'est pas ça. Mais la langue de César, c'est le latin épuré. C'est grammatical au sens immédiat. Or, être initié, je parle d'expérience, être initié au mode de fonctionnement d'une grammaire, c'est le véritable but de toute éducation. C'est ça que je le soutiens. Et c'est pour ça qu'il faut recentrer. On ne le fera pas, j'en suis certain, mais il faudrait recentrer l'éducation vers les grammaires. Et c'est ça le vrai clivage, puisque dans les situations où les parents disposent de cet attirail grammatical, les enfants ont des avantages insurmontables pour ceux qui les suivent à partir des connaissances ingurgitées.
Une toute dernière question, Antoine Mercier. Je vous demanderai une réponse très courte.
Voilà. C'est une grande
groupe.
Question pour une réponse courte, parce que je voudrais un peu élargir. Vous avez parlé en philosophe, vous dites le phénomène généralisé plusieurs fois. Vous avez tendance à nous dire que c'est général. Est-ce qu'on peut en trouver une source et est-ce qu'on peut éventuellement voir aussi ces phénomènes-là dans d'autres domaines que l'éducation, forcément?
La coopération, par exemple, économique. Si on laisse de côté l'écume des jours, les propos politiques, etc. La coopération économique. Je prends l'exemple de la France et l'Allemagne, puisque je suis de près ce qui se passe, par exemple, dans les entreprises nées de fusion. Je ne parle même pas des mariages mixtes, mais je parle de ce qui naît comme tissu solide de l'utilisation du vrai allemand et du vrai français par des gens qui ont réellement appris la langue de l'autre. Eh bien, aucune complicité. Et donc, aucune synergie n'est possible si on se cantonne dans ce que j'appelle le petit anglais, parce qu'on peut parler en allemand petit anglais et on peut apprendre le français en maternelle sous la forme de petit anglais. Et une des choses que je trouve absolument, et je termine là-dessus, que je trouve absolument insupportable, c'est ce que une enseignante de collège m'a rapporté quand j'étais au ministère, préparant ce rapport. Elle disait, je vais quitter l'éducation nationale. J'ai dit, pourquoi, madame ? Mais elle me dit, l'autre jour, j'ai eu le choc de ma vie. J'ai demandé à mes élèves de me dire ce qu'évoquait pour eux un vol noir de corbeau. Je pensais, menace, angoisse, mélancolie, je ne sais pas, sens. Eh bien, rien. Et finalement, une petite fille a levé le doigt et elle a dit... anaphore, madame. Et elle avait puisé dans la boîte à outils qui est mise à la disposition des élèves, au hasard, une clé à molette. Or, aucune clé à molette ne peut remplacer la grammaire.
Une chanson en allemand, Lisa Bauer, pour se quitter. Heinz Wissmann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois que le débat est inépuisable, donc on vous réinvitera, vous aussi, Philippe Batrolo, pardon, d'avoir écorché votre prénom au début de cette émission. Je voulais remercier Philippe Baudouin qui était à la réalisation aujourd'hui. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur notre page, sur le site de franceculture.fr.